Lire un passage, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire du déluge, et puis il y a les genres de passages qu'on connaît moins, c'est après. Après le déluge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec Noé, avec les survivants de l'humanité, Dieu fait une alliance. Et c'est le point de départ. Qu'est-ce que c'est donc qu'une alliance, hein? Donc c'est après. Où est-ce que c'est? Verset 18. Alors, Genèse, chapitre 9, verset 18. Noé sortit de l'arche avec ses fils, sa femme, ses belles-filles, tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras de terre, tous les oiseaux, tous les êtres qui remuent sur la terre sortirent du bateau par famille. En général, quand on illustre l'histoire du déluge, qu'est-ce qu'on illustre? Bah, le fait que tous les animaux qui rentrent dans l'arche. Oui, mais ils sortent. Et ils sortent pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quel sort? Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en sacrifice sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre, à tous les oiseaux du ciel, tous les animaux qui se meuvent sur la terre, tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je le demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. » Et je vais passer et je vais juste dire la fin, verset 12. Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que je conclus pour vous, pour tous les âges à venir, entre moi et vous, et tous les êtres vivants avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel. Voilà, j'ai pas tout lu exactement. En attendant, ils ont cherché, c'est ça? C'est quoi, ça? Une Bible. Ah, c'est gentil. Donc, l'enseignement que je donne, là, c'est un enseignement que je transmets, que j'ai trouvé sur un site d'enseignement juif. Je me dis, de temps en temps, il faut faire quelque chose comme ça. Vous savez, les juifs disent ceci. Ils disent, il y a des commandements. Alors, la plupart, pour eux, la plupart des commandements de la Bible, ça concerne les juifs, ça ne concerne pas les autres gens, les autres peuples. Mais ils disent, il y a quand même des commandements qui concernent tout le monde. Vous vous doutez bien qu'il s'agit bien, c'est le cas de cette histoire de Noé. Parce que qui était Noé pour la Bible et ses descendants? C'est pas les Juifs, c'est tout le monde. C'est toute l'humanité. Et Dieu fait une alliance avec ces gens, avec tous les descendants de Noé, c'est-à-dire tous les peuples. Et pas seulement avec tous les peuples, mais aussi, hein, quand on lit, quand je pose la question, avec qui Dieu fait alliance? C'est dur, hein, on lit pas bien le texte. Aussi avec les animaux. Tout ce qui est sorti de l'arche, en fait, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant. Dieu fait une alliance, et les Juifs, qui sont très très précis, ils décortiquent tous les éléments de cette alliance. Il dit, il y a sept commandements, sept, on va les voir, que Dieu adresse à tout le monde. Et ils vont même jusqu'à dire, si ces sept commandements sont respectés, le non-juif doit être à côté du juif dans la synagogue, il est accueilli devant Dieu, parce que c'est ce que Dieu lui demande. Et moi, j'ai trouvé que c'était... alors, voilà, nous, on est chrétiens. On est dans l'alliance en Jésus-Christ. Pour nous, il y a plus que ça. Mais ça nous concerne aussi, comme ça concerne tout le monde. Hein. Croyant, non-croyant, ça n'est plus la question. Dieu n'a pas mis ne met pas de conditions. Alliance avec tout ce qui vit. C'est les commandements que Dieu donne pour nous maintenir dans la vie. Et que si nous récusons, si nous ne respectons pas, eh bien, on risque au contraire d'aller vers la mort et la destruction. Alors la première diapo, c'est quoi ? Allez-y, je vais passer à vite parce que avec cette diapo, j'ai déjà vu ça la dernière fois. C'est les quatre éléments d'une alliance. Dieu fait des alliances avec les hommes. La Bible, c'est la Bible des alliances. Ancien Testament, Nouveau Testament, on pourrait dire ancienne alliance, nouvelle alliance. Dieu fait des alliances avec les hommes. Ça, c'est le thème, le cœur de la Bible. Ces alliances comportent à la fois des promesses et des commandements. Comme un contrat. Dans un contrat, il y a des engagements réciproques. Dieu s'engage. Il s'engage, il fait des promesses. Avec Noé, quelle promesse fait-il ? Qu'il ne détruira plus la terre, jamais. Et que jusqu'à la fin, tout ce qui permet la nourriture, c'est-à-dire le soleil, la pluie, le rythme des saisons, durera toujours. Ouais, c'est des promesses de Dieu par lesquelles Dieu s'engage. On ne lui a pas imposé. Jusqu'à la fin des temps, l'humanité ne sera plus détruite et elle trouvera toujours le moyen de se nourrir. Voilà la promesse faite à tous. Et puis, il y a des commandements. On les verra après, les commandements. Les commandements, c'est notre engagement à nous. Dieu s'engage et nous devons aussi respecter certaines choses pour être dans cette alliance avec le Seigneur. On les verra après. Le principal pour Noé, c'est ne pas prendre la vie. Mais il y a d'autres choses. Mais ne pas prendre le sang sous la forme, c'est une manière de dire, vous ne prendrez pas le sang de quelqu'un, ça veut dire sa vie. Vous devez respecter la vie. Il y a avec une contradiction, une complication, c'est que Dieu permet aux hommes de tuer des animaux pour manger. Sans doute parce que les temps étaient durs et qu'on a besoin de ça pour avoir suffisamment de nourriture. Mais quand même, ce n'est pas pour autant que vous devez vous croire les maîtres de la vie, même des animaux. Il doit y avoir un respect pour ce qui est vivant. Il y a toujours un signe, c'est normal, dans un contrat, il y a une signature. Et Dieu donne un signe. Et là, le signe, c'est l'arc-en-ciel. Bon, dans notre alliance avec Jésus-Christ, quel est le signe ? Il y en a plusieurs, il y en a au moins deux. Voilà, la Sainte-Seine, par exemple. Ou le baptême. Les signes, c'est toujours quelque chose de concret que tout le monde peut appréhender. Vous voyez, l'arc-en-ciel, tout le monde le voit de temps en temps. La Sainte-Seine, c'est manger un morceau de pain, une gorgée de vin. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est un signe, ça dit beaucoup de choses. Ça entraîne beaucoup de choses. Ça, c'est le génie de la révélation biblique. Concrétiser les choses dans un signe. Qui est à portée de tout le monde. Et puis, le sacrifice. Ça, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Parce que nous, quand on écrit un contrat, ouais, un contrat, il y a des engagements réciproques, il y a une signature, et le sacrifice, c'est quoi ? Le sacrifice, c'est la sanction du contrat, s'il n'est pas respecté. S'il n'est pas respecté, il y a un prix à payer dans nos lois. Si vous ne respectez pas un contrat, vous pouvez avoir une amende, on peut vous... Au pire, vous emmener en prison. Enfin bref, il y a des lois, il y a des sanctions. Et quelle peut être la sanction d'une rupture de contrat avec le Seigneur ? Ben, c'est toujours une question de vie et de mort. Hein. C'est la vie ou la mort. Hein. C'est être réconcilié avec Dieu ou bien être en rupture avec Dieu, c'est-à-dire aller vers la mort. Et pour ça, il y a toujours un sacrifice. Il y a une vie donnée qui marque cela, ce qu'il faut comprendre. C'est que toute la Bible nous amène à le comprendre, c'est Dieu qui offre le sacrifice toujours. D'ailleurs, on n'est pas à égalité avec Dieu à signer un contrat, à négocier les clauses. Moi, j'aimerais que le Seigneur me promette ci et ça. Moi, je veux bien respecter certains commandements, mais celui-là, mais pas celui-là. Il ne faut pas en demander trop. Non, l'alliance, elle est rédigée par Dieu. d'un bout à l'autre, et les promesses, et les commandements, et le signe, et le sacrifice. C'est lui qui donne tout. Alors, quelle est notre liberté là-dedans ? Notre liberté, elle est merveilleuse. Les Juifs disent, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Notre liberté, notre choix, c'est d'adhérer à l'alliance ou pas. C'est de nous tourner vers Dieu ou de ne pas nous tourner vers Dieu. Voilà, c'est beaucoup à réfléchir, mais comme j'en ai déjà parlé, on va passer. Alors voici l'image suivante. Vous avez les sept commandements que les Juifs distinguent. Et pour eux, si quelqu'un non-juif ne respecte ces choses, il l'appelle injuste. Le premier, interdiction du blasphème, interdiction de l'idolâtrie, interdiction des unions illicites, hein, par exemple les adultères, les incestes, les viols, l'homosexualité aussi. Interdiction du meurtre, l'assassinat, interdiction du vol, interdiction de manger la chair arrachée à un animal vivant. C'est comme ça qu'ils interprètent le commandement, parce qu'on a le droit de tuer, mais on n'a pas le droit de la cruauté inutile, quoi. Voilà. On n'a pas le droit de maltraiter pour autant même les animaux. Et établir des tribunaux pour faire respecter ces lois. Ça, c'est peut-être quelque chose de banal. Non, c'est pas si banal. Hein. Quand il y a des lois, on sait bien que personne n'est parfait, que les lois ne sont pas toujours respectées. Mais ils disent, dans une société, s'il y a des tribunaux qui font appliquer les lois, qui sanctionnent les déviances, alors que c'est une société juste. Alors, on va continuer, parce que la dernière fois, on avait commencé à voir ça. J'avais commencé par l'amour. Alors, à chaque fois, ils disent tous ces interdits, parce que c'est négatif tout ça. Hein. Qu'est-ce que Dieu nous apporte ? Il nous apporte des interdits, des règles négatives, sauf le dernier qui est d'avoir des tribunaux. Hein. Bon. Mais ils disent tous ces interdits correspondent à des dons de Dieu, à des dons que Dieu nous fait. Et s'il y a un interdit, c'est pour qu'on ne perde pas le don de Dieu, pour qu'à chaque fois le don de Dieu soit préservé. Qu'on ne le détruise pas. Et l'un des plus grands dons de Dieu, en hébreu, le hesed, c'est l'amour, la bonté, la générosité gratuite. Voilà. Dieu nous fait grâce. Dieu est généreux envers nous. Et quel rapport avec l'adultère ? Ben, vous voyez, la sexualité humaine et l'expression humaine, parce que l'homme est à l'image de Dieu, de cette générosité du Seigneur. Dans l'amour, on se donne gratuitement. Ça ne doit pas être autrement. Ça ne devrait jamais être autrement. On ne doit jamais prendre, on doit toujours donner. On peut accepter ce qui est donné. C'est gratuit. Alors, on fait grâce à l'autre. En gros, on donne à l'autre, c'est dans l'idéal. Hein, mais je ne sais pas si vous avez l'impression de vivre dans l'idéal dans ces domaines. Je ne vous pose pas de questions, hein, je ne vous demande pas d'y répondre. Mais on donne à l'autre ce qui ne mérite pas. Mais c'est vrai. Soi-même, on appartient à qui ? J'appartiens à moi-même. Qui a le droit de profiter de moi, en quelque sorte ? Mais personne. Sauf que, par amour, on autorise quelqu'un à profiter de vous. Et Dieu, par amour, eh bien, il nous fait grâce, il nous pardonne, il décide de nous aimer même quand on ne le mérite pas, quand on n'est pas parfait. Et voici ce qu'ils disent, les déviations de la sexualité détruisent, voilà, c'est détruisent ce principe d'amour gratuit, de don gratuit. Et voilà ce qu'on perd, c'est surtout ça avec ces commandements qui sont comme des, on dirait, voilà, il m'a mis des barrières, là j'ai envie de passer, puis j'ai pas le droit. Non, et voilà ce que je perdrai à ne pas respecter le commandement de Dieu. J'y perdrai le sens de l'amour généreux, de l'amour gratuit. C'est intéressant d'y penser comme ça. Ah, on a beaucoup à perdre à faire le mal. On a beaucoup à perdre à faire le mal. Et on a des grandes illusions quand on est tenté. Ah, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et les dégâts qu'on fait chez les autres et chez soi-même. On ne se rend pas compte la destruction, le niveau de destruction. Allez, je l'avais vu la dernière fois aussi, je passe. On avait vu aussi celle-là, puis après on continuera. L'interdiction du meurtre. Là, ça paraît évident. Parce que le don de Dieu qui correspond, c'est la force. Évidemment que le meurtre, c'est un dévoiement de ce don de Dieu qui est la force. Mais alors, à quoi ça sert la force? Vous êtes posé la question? Les hommes musclés, là, quoi ça sert vos muscles, hein? Comment?
Au bien.
Au bien, ouais. Mais vis-à-vis des autres personnes. Moi, ouais, alors protéger, effectivement. Moi, j'ai dit ça à mes enfants. Il ne faut pas utiliser la force contre les autres. Sauf peut-être quand il s'agit de protéger quelqu'un de plus faible. Mais, voyez, là, ils vont plus loin que ça. Parce que, moi, j'ai lu cette chose extraordinaire. Il le lit au libre arbitre. C'est-à-dire le choix que nous avons de nous tourner vers Dieu ou pas. C'est quoi la force de celui qui est faible? Parce qu'on n'est pas tous musclés. Hein, y en a qui, en plus de ne pas être trop musclés, ils sont malades, peut-être, ou vieux. Et donc, on est faible. C'est quoi la force? La vraie force, c'est ce qu'ils disent là dans cet enseignement juif, c'est notre capacité à se tourner vers le Seigneur. C'est l'exercice de notre libre arbitre. C'est ça la force. Waouh! Et ça, c'est une force qui est donnée à tout le monde, hein, mais y compris à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont vieux, y compris aux enfants. Ils ont la véritable force qui nous restaure, qui nous donne la vie. Et le meurtre, c'est le contraire de ça, c'est la négation de la vie. On avait vu ça, mais on va continuer. La suivante. Voilà, la beauté reliée au vol, à l'interdit du vol. Quel rapport? Moi, je suis beau, n'est-ce pas? Je vous remercie, vous n'avez pas trop rigolé aujourd'hui. Ah ouais, ça déclenche quand même. Il y en a qui ont souri. Il y en a, ils ont dit, oh, il doit parler de sa cravate, sûrement. Moi, je suis beau, mes pectoraux magnifiques, mes abdominaux d'acier, etc. Non, mais je sais comment faire rigoler les gens maintenant. Hein. J'ai qu'à déclarer que je suis beau. Hein. C'est marrant. Hein, c'est bon. J'ai pas trop de complexe, alors ça va. Faites attention quand même. Mais quel rapport avec le vol? À quoi ça sert d'être beau? Moi, je vais vous dire, à celui ou à celle qui est beau ou belle, ça ne vous sert à rien. Pas à vous. Ça sert aux autres. Forcément. Si on est beau, c'est pour que les autres le voient et disent, waouh, il est beau, il est belle. Que ce soit agréable. Ça ne sert pas à nous d'être beau. Ça sert à autrui. On se présente, on offre quelque chose d'agréable. Alors, je dis beau, il y a la beauté physique, mais il y a aussi la beauté de tout ce qu'on fait. La beauté de la cravate, ça compte aussi. Hein. Bon, si on fait un effort, moi, j'ai tendance à être un peu indifférent à tout ça, mais je sais qu'il faut faire attention quand même. On présente à autrui ce qu'on a de meilleur. Ce qu'on fait, quand on fait un travail, on le fait bien. On le fait bien. C'est pour soi-même ce qu'on le fait, non, c'est pour celui pour qui on travaille. On présente ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on sait faire, et c'est ce quelque chose de beau qui est donné à l'autre. L'ennui, c'est qu'on est dans une société marchande. C'est que souvent, les choses ne sont pas données, elles sont vendues. Mais vous savez, ça c'est une déviance. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'achat ni de vente. Il y aura seulement du don. Dans l'idéal, les vraies relations humaines, les bonnes relations humaines, c'est de donner. Donner ce qu'on est, donner ce qu'on a. Et que les autres disent, ouais, c'est chouette ce que tu me donnes. L'admire. C'est beau ce que tu fais. Et c'est comme ça que les relations doivent se faire. Et vous voyez que là, quand on voit les choses comme ça, on comprend mieux que le vol, eh ben c'est casser ce système. Parce que ce qui est beau appartient à mon frère, ma sœur, et qu'il me donne, eh ben, si je le prends, c'est une agression. Je brise la relation. Voilà pourquoi le vol, je sais pas moi, il y a des gens, ils sont voleurs, ils ont un peu ce vice-là. De toute façon, on a tous quelques vices quelque part, des choses sur lesquelles on est un peu faible, où on a des tentations. c'est pas parce qu'on est dans tentation qu'on est obligé d'y céder, mais enfin, on a tous des difficultés quelque part. Peut-être pour se libérer des tentations, il faut se rendre compte de ce qu'on fait. Voilà. Les choses ne sont pas faites pour qu'on les prenne, elles sont faites pour être données. Et quand on vous les donne, prenez. Voilà, il n'y a plus de problème là. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous ne l'avez pas volé. Non mais ma toux a repris, j'ai une petite infection, du coup j'avais un truc en tête et ça m'est juste sorti de la tête. Bon, allez, ça va revenir au mauvais moment. C'est pas grave, on va continuer. Là, le suivant, l'interdiction du... Non, c'est le suivant. La beauté, le vol, voilà, bravo. L'interdiction du culte des idoles. Et ils disent le contraire, la qualité que Dieu nous a donnée, c'est la victoire. Ah, là encore, quel rapport. C'est pas moi qui ai inventé cet enseignement, moi je découvre même, comme vous. Vous savez, quelle est notre victoire? Si vous lisez l'Évangile, le Nouveau Testament, quand Paul parle de notre victoire, c'est quel genre de victoire à laquelle nous sommes appelés? Comment c'est? Ouais, si tu veux, dans un sens, mais on ne remporte pas soi-même la victoire sur nous-mêmes. Oui, la victoire sur la mort, c'est l'ultime victoire que nous ne remporterons pas nous-mêmes non plus, qui est le don de Dieu. Ben, toutes les victoires qu'on remporte, on ne les remporte pas soi-même. Les victoires qu'on remporte, on les remporte parce que c'est le Seigneur qui nous l'accorde et parce que nous sommes dans la foi. Notre victoire, c'est la foi. Paul dit, j'ai persévéré jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. C'est ça son ultime victoire. J'ai gardé la foi. Jésus dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Voilà. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui persévérera dans quoi? Dans la foi, sera sauvé. Voilà, notre victoire, c'est la foi. Et voilà pourquoi l'idolâtrie, c'est le contraire de la victoire. C'est la désagrégation de la foi. L'idolâtrie, c'est-à-dire se confier en quoi que ce soit d'autre qu'en Dieu, eh ben, c'est renoncer à la foi. C'est dire Dieu, ben, je ne sais pas, c'est trop loin, c'est trop compliqué, j'y crois plus. Alors je vais me mettre... Alors les gens qui croient en rien, ça n'existe pas. Hein. Moi, j'y crois pas. Là. Ça n'existe pas. Les gens qui ne croient plus en Dieu, ils croient en autre chose. Ils se confient en autre chose. Hein. Alors soit on a d'autres dieux, mais on croit en sa réussite, on croit en l'argent, on croit en sa propre force. On croit toujours en quelque chose. Et tant que ce quelque chose, c'est autre chose que Dieu lui-même, eh bien, ça s'appelle une idole. Ça s'appelle un faux dieu. Ça s'appelle un dieu trompeur. Un Dieu qui sera décevant. Et cela se produit quand on renonce à la foi. Et quand on renonce à la foi en Dieu, on renonce à la victoire. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Vous voyez l'envers du décor. C'est juste un commandement. Ah, tu n'as pas le droit d'avoir d'autre Dieu que celui-là. Oh là là, pour qui il se prend, tout ça. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Mais non, si on adopte un autre Dieu que lui... Eh bien, on renonce à la foi, donc on renonce à la victoire. La victoire, on ne la remportera pas nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est interdit le culte des idoles. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour que nous restions dans la foi et dans la victoire jusqu'à la fin. Ensuite, l'interdiction du blasphème. Bon, il va ensemble, ça va ensemble, hein. Parce que le culte des idoles, c'est une renonciation à la foi en Dieu, et le blasphème aussi. Le blasphème, c'est de se détourner de Dieu. Hein. Et l'envers de ce commandement, de cet interdit du blasphème, eh bien, c'est la renonciation à la reconnaissance. Voilà. Dire du mal de Dieu, c'est dire Dieu m'a fait du mal, en quelque sorte. Et ne pas voir tout le bien qui m'est donné. Ça s'exerce, la reconnaissance. Ça se travaille, la reconnaissance. Ça s'apprend à se lever en dire merci. et pas en se levant en disant « j'ai mal, j'ai des soucis, je ne sais pas ». En se disant « j'apprends à être reconnaissant pour tout ce que je reçois ». Et puis, selon le principe habituel de l'Évangile, « tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain », dans nos relations avec les autres, c'est pareil. Hein. Quand je vois arriver quelqu'un, je dis « celui-là, je ne l'aime pas, il y a eu ceci, il y a eu cela, tout ça ». Qu'est-ce qu'on dit ? Ou alors on dit « merci Seigneur pour cette personne-là, pour sa beauté, pour les bonnes choses qu'il a faites, pour la bonne personne que... » Parce que, bah oui, parce qu'il aime le Seigneur aussi, parce que lui aussi, il est pardonné, etc. « Merci Seigneur pour telle personne que je vois, et merci Seigneur pour toute chose que tu me donnes. » La reconnaissance, c'est la chose qui nous épargne le blasphème. Celui à qui on dit merci, on ne lui dit pas zut en même temps. Quoi. Voilà. Ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc voilà, vous ne voulez pas blasphémer, exercez-vous à la reconnaissance. Et puis, à la fin, Yesod, le fondement. Voilà. Alors ça, c'est ce commandement spécifique qui est un peu curieux. L'interdiction, alors les Juifs le disent comme ça, hein. Dans la Bible, je lis l'interdiction de consommer un animal avec son sang. En gros, ça veut dire qu'il faut le tuer d'abord. Mais c'est comme ça qu'ils disent, il ne faut pas maltraiter un animal vivant. Vous savez qu'en ce moment, on parle de choses comme ça. Il y a des gens qui mettent des caméras dans les abattoirs, qui voient qu'on maltraite les animaux. Bon. L'ennui, c'est que c'est des extrémistes. On est à une époque, on a des ennuis avec les extrémistes. C'est des végans. C'est des gens qui veulent en fait qu'il n'y ait pas d'abattoir, qu'il n'y ait pas d'élevage, qu'on ne tue aucun animal et qu'on ne mange pas de viande. C'est leur but. Hein. Et voilà, ils partent d'un point où ils ont raison. Et parce qu'on peut, sur une base biblique, dire oui, c'est justifié qu'il y ait dans les lois quelque chose qui concerne les animaux aussi. Qui interdisent la maltraitance, la cruauté envers les animaux. Bon, mais eux, ils veulent aller plus loin. Certains disent même qu'il faut que les animaux aient les mêmes droits que les êtres humains. Moi, j'ai lu ça. Hein. C'est incroyable. Non, mais quand on n'a plus de rails, de guides, ça va n'importe où. Mais oui, vous rigolez, mais c'est leur but. Je ne sais pas, moi, peut-être quand on nous aurait dit, si on nous avait dit il y a 20 ans, bientôt, les homosexuels auront le droit de se marier, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui auraient rigolé. Le but, c'est ça. Les animaux, on est mal droit. Les hommes, les chimpanzés, ils ont presque le même ADN que nous. Il faut les considérer comme des hommes. Il n'y a plus de repères. Donc, on ne sait plus quoi faire. Donc, toutes les idées sont possibles. Hein. Et il n'y a pas de guide pour... Bon. Ben voilà. Dieu dit, les animaux, c'est la vie. Et quelque part, même si on tue un animal pour manger, on doit avoir une certaine crainte en disant, qu'est-ce que je fais ? Je touche à la vie. Je touche à quelque chose qui me dépasse, qui ne m'appartient pas. Néanmoins, c'est permis. La Bible ne fait pas du perfectionnisme. On n'est pas dans le monde parfait. Oui, je suis sûr, dans le royaume de Dieu, on ne tuera personne, même pas des animaux. On trouvera un moyen de manger autrement. Mais voilà, la terre est marquée par le mal, marquée par le péché, marquée par des difficultés. Et Dieu nous fait cette concession que c'est permis de tuer des animaux pour manger, mais pas de les maltraiter. Et c'est pour ça aussi que l'inverse de ce commandement, c'est, ils appellent ça le fondement. Pourquoi le fondement ? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental, il y a la vie qui est en jeu. Et on ne doit jamais perdre cela de vue. Voilà. Si vous avez des araignées qui se baladent au-dessus de votre lit et que ça vous dérange, vous pouvez les éliminer. Mais... il faut faire quand même attention dans quel esprit on fait ce genre de choses. Quoi. Malheur aux exterminateurs. Quoi. Moi, je lisais des récits, mais je lisais un récit qui datait d'il y a un siècle, au début de la colonisation de l'Afrique. Il y avait des animaux sauvages partout. Il y avait des chasseurs qui avaient des tableaux de chasse, mais par centaines. Et je dis là, il y avait vraiment une folie. Il y a une folie meurtrière. Chasser pour chasser, pour le plaisir, pour dire, tiens, j'ai tué la grosse bête, j'ai mis ce... Ah là 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 là. Il y a vraiment des choses malsaines. Et il faut redire que celui qui chasse pour nous se nourrir et nourrir sa famille il peut le faire, mais il faut faire attention quand même. Il ne faut pas toucher à ce fondement qu'est la vie. Il faut garder le respect et ne pas traiter les animaux comme des choses. Alors voilà, même pour les animaux, il y en a. Vous savez que j'ai dit, Dieu fait alliance avec tout ce qui vit. Il y a un commandement qui concerne les animaux. Vous l'avez repéré dans la lecture ? Voilà, un animal n'a pas le droit de tuer un être humain. Et s'il le fait, il est dit, Dieu lui redemandera son sang, c'est-à-dire sa vie. Dieu va lui demander des comptes. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est dit. Voilà, vous savez comment a été fondée l'église d'Arras, qui s'appelle l'église Saint-Va ? C'est les vieilles histoires de l'évangélisation de la France. La ville était en ruine, l'église était en ruine, et il y a des moines qui sont venus là. Et puis les gens leur ont dit, mais il y a un ours qui est dans les bois, là, alentour, et il fait des dégâts, il a tué des gens. Le moine, il est allé vers l'endroit où était l'ours. L'ours est sorti du bois, agressif. Il y a un des moines, il s'est carapaté. Mais l'autre, qui était Saint-Va, il a dit, au nom de Dieu qui a fait l'homme supérieur à la bête, je t'ordonne de partir. Et l'ours est parti. Moi, j'ai dit, cet homme, il avait la conscience, la vérité telle que nous dit la Bible. La bête, même l'ours, n'a pas le droit de tuer un être humain. Et il a eu l'autorité spirituelle de le lui rappeler. Et l'ours est parti, du coup, les gens du coin, ils se sont un peu convertis. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Il ne faut pas croire que les gens, hein, des fois, on nous suggère que les conversions ont été plus ou moins forcées. La plupart du temps, ça n'a pas été le cas. Le pays est devenu chrétien petit à petit et par des événements comme ça, parce qu'il y avait des hommes de Dieu qui prêchaient et qui faisaient des miracles comme ça. Ben, je me suis dit, oui, c'est juste. Voilà, il y a une hiérarchie spirituelle et la bête n'a pas le droit de tuer l'homme et on a le droit de s'y opposer. Et là, il s'y opposait avec la parole, avec la parole de Dieu. Hein. Et puis la fin, ça va, vous n'ennuyez pas encore ? C'est le seul commandement positif. Les lois doivent pouvoir être appliquées. Et ils disent, c'est un commandement qui correspond à une qualité... Non, c'est la suite, il faut passer à la suite. Hop. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le texte. Hein. Alors ça, c'est le début. C'est la dernière diapo, ça va venir. L'une des dons de Dieu, des qualités de Dieu, c'est le don de la souveraineté ou de la royauté. Oui, l'homme est appelé à être souverain sur cette terre, sur la création, dans la soumission à Dieu, dans la soumission au Seigneur. Nous avons envoyé un bug, bon, c'est pas grave, tant pis. Ou alors j'ai mal fait mon truc, moi, peut-être, ça peut arriver. Hein. Et donc, cette souveraineté, elle doit être respectée. Moi, je vais vous donner un exemple, parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas toujours, à mon avis. Un jour, mes enfants sont revenus de l'école primaire. Ils ont dit, est-ce que l'instituteur a le droit de nous frapper ? Moi, j'ai dit, alors, moi, je sais bien, parce qu'ils en discutent entre les gamins. Attention, hein, si l'instituteur s'est un peu trop énervé, tout ça. Alors, je leur ai dit ceci. Moi, je leur ai dit, non, l'instituteur n'a pas le droit de vous frapper. C'est la loi. Mais vous devez respecter l'instituteur. Et si vous ne lui respectez pas, si vous lui manquez de respect et qu'il vous met une paire de claques, moi je dirais que l'instituteur a raison. J'ai dit ça à mes enfants. Parce que l'autorité doit avoir le moyen de se faire respecter. Sinon, elle ne le sera pas. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de radar, les gens ils vont aller vite hein, sur la route. Voilà. Les gens respectent, acceptent de tous rouler à droite et pas à gauche, parce que si on le faisait pas, il y aurait tellement de morts que, bon là, on comprend un petit peu qu'on est obligé. Mais oui, s'il n'y avait pas des radars et des amendes, eh ben, les gens iraient vite sur la route. Il faut qu'il y ait un moyen, voilà, il y a un moyen. Il y a une justice qui donne une sanction. Bon, le débat sur la fessée, là. Trah, là, 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 là. Oui, il ne faut pas maltraiter les enfants. Évidemment, il ne faut pas taper sur les enfants. Non, il ne faut pas. Les enfants sont faits pour qu'on les aime et qu'on les respecte, pas pour qu'on leur tape dessus. Mais quand même, il ne faut pas aller jusqu'à interdire aux parents
de faire respecter leur autorité. Bien sûr que les parents, ils doivent exercer leur force avec modération, avec le plus de modération possible, et au moins on en fait au mieux en sport dans ce domaine. Mais s'il n'existe pas le moyen de se faire de respecter l'autorité, ça va être grave. Hein. Ouais, les enfants qui, quand ils sont petits comme ça, désobéissent à leurs parents, moi je peux vous dire, quand ils sont grands, grave, hein, grave. Et vous donner un exemple. Peut-être j'étais hors la loi, maintenant je serai hors la loi. Quand on allait à l'école avec les petits, alors trois d'un coup, hein, ils voulaient courir sur le trottoir. Vous les laissez faire, vous ? Eh bien, moi, si, je les laissais faire. Mais on avait fixé des règles précises. D'abord, vous ne disparaissez jamais de ma vue. S'il y a un tournant, il faut qu'il s'arrête. Et ensuite, vous ne mettez jamais un pied sur la route, même au passage pour piétons, avant que je le dise. Et j'avais fixé la sanction. C'est-à-dire, si vous disparaissez à ma vue, je vous attrape par la main et vous ne pourrez plus courir sur le trottoir jusqu'à la fin du trajet. Pas trop méchant, hein ? Et puis, par contre, pour la rue, c'est tellement dangereux, j'ai dit, là, si vous mettez le pied sur la rue, c'est la fessée tout de suite. Et je l'ai fait quelquefois, pas souvent. Mes enfants, ils respectaient la règle. Et je les laissais courir sur le trottoir. Et voyant ça, il y a d'autres enfants avec leurs parents. Nous aussi, on va... Les enfants, les parents les lâchaient et tout de suite, c'était la catastrophe. Les parents, ils se mettaient à crier. Voilà. C'est là que j'ai appris concrètement que voilà, toutes les règles qu'on fixe, elles ne sont pas faites pour emprisonner les gens. C'est le contraire. Mes enfants, ils étaient plus libres que les autres parce qu'ils respectaient les limites. Et parce que moi, je m'étais donné les moyens concrets de faire respecter la limite, c'est-à-dire d'appliquer la sanction quand il fallait. La sanction, la règle est connue, la sanction est connue, et quand il faut... Moi, je peux vous dire, même devant le passage pour piétons, là, s'ils mettaient le pied sur la route avant que je l'ai dit, paf. Mais ça marche. Après, ils ne le font pas. Et du coup, mes enfants étaient plus libres que les autres. Vous comprenez le truc ? Moi, ce que j'aimerais faire comprendre avec tous ces commandements, ces règles, c'est qu'ils sont faits pour nous libérer et pas pour nous emprisonner. Au contraire, ils sont faits pour empêcher que l'on s'écarte de tous les dons que Dieu nous a faits et qui sont des dons qui sont faits pour que nous vivions. Le don d'amour, le don de la force, le don de la beauté, le don de la victoire, le don de la foi. Oui, la victoire associée à la foi. Le don de la reconnaissance envers Dieu, le don d'avoir des fondements, des choses fondamentales, et le don à la fin de la souveraineté qui doit faire appliquer les règles, ils sont faits pour qu'on vive. Voilà, c'est le but. Hein. En sortant du déluge, Dieu a promis que l'humanité vivrait, aurait les moyens de la vie jusqu'à la fin des temps. Au passage, quand on vous dit qu'il y a les catastrophes écologiques, oui, ça arrive, il y a des catastrophes écologiques, mais elles sont limitées à certaines zones. Vous savez, en ce moment, il y a des famines. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, on disait il y avait 3 milliards d'habitants sur la Terre, aujourd'hui, il y en a 7. On disait, ça va être la famine partout. La Chine, l'Inde, il y a telle population qu'ils ne vont pas pouvoir la nourrir. Ça ne s'est pas produit, n'est-ce pas ? À une époque, il y avait des famines au Sahel, parce qu'il y avait des sécheresses. Eh bien, moi, j'ai lu un jour, il y a un dirigeant, celui du Niger, qui est venu au pouvoir, il avait subi la famine quand il était enfant. Il a dit, il n'y aura pas de famine au Niger. Eh bien, moi, j'ai vu une fois, il y avait de la famine dans tous les pays autour, mais pas au Niger. Pourquoi ? Parce que ce dirigeant-là, il était honnête. Il avait un réel souci de son peuple. Et il a fait ce qu'il fallait pour que son peuple ne meure pas de faim, quitte à accepter l'aide internationale, quitte à la distribuer honnêtement au lieu d'être corrompu et de prendre tout au passage. Vous voyez, pour moi, c'est les promesses de Dieu qui se réalisent et pas les catastrophes prédites par l'homme. Aujourd'hui, en Somalie, en Érythrée, en Éthiopie, il y a des famines, au Soudan, Sud-Soudan. La cause des famines, c'est les mauvais hommes. C'est les guerres civiles,
c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption généralisée. C'est ça la cause des famines. Il y a à manger pour tout le monde aujourd'hui sur la Terre avec les 7 milliards d'habitants. Un jour, je sais pas, je parle de ça, je m'étale un peu là-dessus, mais ça m'a tellement frappé. Il y a eu une sécheresse en Namibie. Personne n'en a entendu parler. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de la Namibie était un gouvernement honnête et compétent. Vous savez, alors il y a des sécheresses, il n'y a plus de pâturage, les animaux, les vaches, ils ne trouvent plus à manger. Ben, ils ont donné une prime à l'abattage à tous les éleveurs. Du coup, ils ont réduit la pression sur ce qui restait des pâturages, ils ont aidé les éleveurs. Et quand les choses ont empiré, ils ont embauché tous ceux qui n'avaient pas de ressources un travail contre de la nourriture. Et ils avaient préparé toutes les infrastructures pour accueillir l'aide. La première année, ils s'en sont sortis tout seuls. Et ils avaient préparé toutes les infrastructures logistiques pour accueillir l'aide internationale s'il fallait. Voilà. Ils ont subi la catastrophe naturelle, mais pas la famine. Les moyens de ne pas être affamés existent. Et c'est la méchanceté des gouvernants. Vous voyez, la souveraineté, ce dernier... Le don que Dieu nous a fait d'avoir une souveraineté, une royauté sur la terre, sur les choses, si on l'exerce correctement, eh bien, les gens ont et auront les moyens de vivre. Ça fait partie des promesses du Seigneur. Voilà. Oui, c'est ma petite fille qui conclut. C'est très gentil comme ça. Il me dit subrepticement, il est temps de conclure. Oui, c'est par la voix des enfants que tu as fondé ta gloire. Ça aussi, c'est un psaume des enfants, des nourrissons qui sont à la mamelle. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci. J'explique des choses. Ça m'intéresse. Ça me passionne. C'est des dons qu'ils nous ont faits. C'est des enseignements qui ont été donnés déjà il y a tellement longtemps. Et qui ce sont les choses que Dieu donne pour que l'humanité ne soit pas perdue. Seigneur, nous te prions de nous donner l'intelligence, la sagesse, de recevoir ces choses, de les comprendre, de nous en réjouir, d'en être reconnaissants, de les pratiquer. Seigneur, fais-nous le cadeau, si nous comprenons bien comment ça fonctionne, d'être fidèles à tes commandements avec joie, avec contentement, parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Seigneur, donne-nous la vie, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen.